C'est le temps de parler maintenant sport business avec Ray Lalonde qui est avec nous. Salut Ray.
Salut Jérémy.
Bon Ray, et c'était le Kawhi Watch ce week-end et ça s'est conclu avec un contrat de 4 ans, 142 millions de Kawhi Leonard avec les Clippers de Los Angeles. Évidemment, déception chez les partisans, mais je pense qu'il y a eu, et à ma grande surprise, beaucoup de réalisme. Tu as été le premier à nous dire en ondes, si jamais il signait ailleurs qu'à Toronto, il faut juste lui dire merci d'être venu pendant une année, merci d'avoir donné un championnat aux Raptors et bonne chance pour la suite. Et c'est ce qu'on est capable de sortir à travers tout ce qui s'est dit au sujet de Kawhi Leonard.
Oui, puis je répète encore une fois que n'eût été de sa présence, les Raptors auraient été encore aspirants, mais pas champions. Ils avaient une équipe compétitive l'année précédente. C'était le morceau qui manquait. Et là, on parle pas de n'importe quel morceau, c'est-à-dire un joueur qui peut te livrer un titre. C'est quand même assez unique. Mais revenons maintenant sur comment ça s'est passé. Parce qu'à la fin, là, on a réalisé que derrière le silence de Kawhi Leonard, il a mobilisé et gardé tout le monde en attente pendant plus d'une semaine. Pas tout à fait plus d'une semaine, mais depuis le championnat des Raptors, 3-4 semaines. Mais 5 jours d'agent libre, de joueurs autonomes, et tout le monde a attendu. Et il a fait en sorte que les autres équipes étaient affectées et ne pouvaient concrétiser les échanges, les transactions, tant et aussi longtemps que Kawhi n'avait pas décidé. Et en plus, il a démontré encore une fois le caractère. Et je te le dis pas là, de façon fan de Kawhi Leonard, je te le dis de façon objective. Il aurait pu aller avec les Lakers et avoir un super team, comme on l'appelle, et assurément remporter le titre l'an prochain. Mais non, il a choisi d'aller pour les Clippers. Personne dans l'histoire des Clippers a fait le choix d'aller jouer pour cette formation-là, qui il y a 20 ans était classée par la pire franchise de sport en Amérique du Nord, selon Sports Illustrated, jusqu'au départ de Donald Sterling en 2014 pour des propos racistes. Et depuis que Stephen Ballmer est là, le propriétaire de sport le plus riche en Amérique, à plus de 45 milliards de dollars de valorisation, ben depuis qu'il est là, ça change. Mais c'est quand même le premier joueur qui décide « ce sera ma destination » justement pour jouer dans le même amphithéâtre que LeBron James, pour justement aller battre LeBron James dans le Staples Center à Los Angeles et gagner un autre titre. C'est ce que j'appelle, moi, là, le dernier des Jedi. Celui qui renverse les dynasties, les titres, les champions en place. Il se fait un plaisir pour aller les battre. Incroyable.
On dit dans l'histoire qu'il a patienté parce qu'on attendait cette acquisition du côté des Clippers de Paul George du Thunder de Oklahoma City, qui est une méga vedette dans la NBA. Donc, sachant que Paul George arrive, l'argent, je pense qu'il aurait pu l'avoir partout. Mais sachant qu'il y avait un support supplémentaire avec Paul George, c'est ça qui a fait peut-être pencher en faveur les Clippers?
C'est sûr que là, il y a eu beaucoup de choses qui sont déroulées en silence. Mais encore une fois, Kawhi Leonard a géré le jeu. Il a fait en sorte que personne ne sortait un mot au sujet des discussions. Il ne peut gagner un championnat seul. Il avait besoin d'un partenaire. Paul George a marqué 28 points par match l'an dernier. Jérémy, là, c'est un joueur qui joue dans l'ombre à Oklahoma City, mais c'est tout un joueur de basketball. Il a 28 ans, il est originaire de Los Angeles aussi. Alors, quand il l'a appelé et lui a dit « Veux-tu venir à Los Angeles avec moi? Voici ce que tu vas faire. Tu vas aller mettre de la pression sur ton directeur gérant comme quoi tu veux quitter. » Mais ça démontre la puissance des joueurs, l'influence qu'ils ont. Jérémy, Paul George n'était pas agent libre. Il a ordonné un échange à son GM. Mais qu'est-ce que Presti a fait, le GM du Thunder? Il est allé chercher 5 premiers choix et quelques autres, le plus gros échange qu'on a vu depuis au moins 10 ans. Et Oklahoma City va rebâtir, mais avec tout l'avenir devant eux. Tandis que les Clippers ont déjà une bonne équipe, contrairement aux Lakers qui rebâtissent de zéro. Moi, je pense que les Clippers, actuellement, il faut les favoriser pour le titre l'an prochain. Et encore une fois, Kawhi Leonard.
OK, laissons la business de côté. Je veux parler basket, OK? Qu'est-ce qui va se passer avec Toronto? Ouais. Là, Danny Green est parti avec les Lakers.
Ouais.
Là, écoute, il va manquer des éléments un peu. Là.
Oui, tu as raison. On revient à ce qu'on avait il y a 2 ans. Sauf que il y a 2 ans, on n'avait pas Marc Gasol. Et on n'avait pas Pascal Siakam en plein développement. Joueur le plus amélioré de la NBA cette année. Alors, les Raptors sont déjà mieux qu'ils étaient il y a 2 ans. C'est sûr que dans la conférence de l'Est, Milwaukee reprend du galon. Philadelphie est très fort avec Joel Embiid. Les Raptors sont présents. Mais là, ils n'ont pas le joueur pour renverser la vapeur. Donc, ils vont être compétitifs. Et ils ont un bon plan de reconstruction. Mais ça se peut que ce soit une reconstruction complète dans un an. Parce que 3 ou 4 de leurs meilleurs joueurs, dont Kyle Lowry, deviennent joueurs autonomes. Et ça se peut que M. Ujiri décide, on rebâtit à zéro. Ça se peut qu'on doive s'attendre à ça du côté des Raptors. Mais encore une fois, Leonard a livré un championnat.
C'est ça. Donc, faut savourer le championnat du côté des Raptors de Toronto. Parlons du baseball majeur maintenant. Ce week-end, le Blue Poudre est à l'honneur. Le Blue Poudre des Expos de Montréal qui a été mis par la formation des Nationals de Washington face à Kansas City. Écoute, c'est un beau coup de pub, ça, pour le logo, pour l'image des Expos de Montréal.
D'abord, beaucoup promotionnel et marketing pour les Nationals.
Et j'ai lu des textes, on n'était pas très contents. Il y a des gens du côté de Washington qui n'étaient pas contents.
Absolument
de ça.
Pas. Mais ils n'ont pas d'histoire, eux. Ils n'ont pas d'équipe avant. Ils n'ont pas de troisième chandail, Jérémy. Alors, pour ce faire, ils ont dit, ben garde, on est dans une business de commercialisation. C'est certain que ça fait réagir des gens. Même à Montréal, il y a des gens qui étaient un peu attristés de voir ça, qu'une autre équipe exploitait l'image des Expos, nos Expos. Mais à la fin, c'est du marketing, c'est de la business, c'est de la commercialisation. Et ça a attiré l'attention. Ils ont mis Max Scherzer comme porte-parole là, pendant quelques jours avant pour précéder sur les médias sociaux dans l'uniforme des Expos. C'est l'histoire des Nationals. C'est pas l'histoire d'une équipe qui était à Washington avant, c'est une équipe qui était à Montréal. Alors là-dessus, il faut leur donner un chapeau, lever la main et les saluer. Ils ont bien réussi et ça va vendre des chandails. Comme par exemple ce soir, le concours de coup de circuit, le Home Run Derby, ben il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer ce qu'on appelle des sleeveless shirts. Mm-hmm. Parce que là, ça vient de faire son apparition en fin de semaine. Les Reds de Cincinnati ont joué avec ça.
Ouais, on sortait nos gros bras.
Exactement,
là.
On sort les gros bras. Et là, ce soir, tu vas les voir parce que les gros bras égale frappeur de circuit. Et tu vas pouvoir réussir à faire une percée au niveau des ventes de produits dérivés avec des chandails à manches coupées. Alors, la business du baseball est en bonne santé, mais ils peuvent faire mieux du côté marketing. Et ce sont deux beaux efforts qu'ils ont fait.
Selon toi, l'idée d'avoir le vêtement, l'uniforme bleu poudre des Expos, est-ce que ça vient des Nationals ou ça vient du baseball majeur qui a suggéré aux Nationals de faire ça?
Ça, j'ai pas la réponse. Fait que je veux pas spéculer. Mais à mon avis, les Nationals ont pensé à ça. C'est leur job dans le marketing. C'est pas celle du baseball majeur de dire « faites un petit geste, une petite fleur, un fleuron aux Expos ». Non, non. Probablement que les Nationals se sont dit « garde, on parle beaucoup des Expos ces temps-ci. On parle beaucoup de Tampa Bay, Montréal. Peut-être que c'est l'occasion pour nous d'en tirer profit et de créer une opportunité d'affaires pour eux et ça a bien réussi.
Mais c'est incroyable le nombre d'uniformes différents qu'on a dans le baseball majeur. Fête des pères, fête des mères, lutte contre le cancer.
Le 4 juillet, tout le monde a la casquette bleue et rouge à travers le baseball, peu importe les couleurs.
Les surnoms dans le dos, les pas de manche. Écoute, c'est incroyable. Je sais pas par année, et là, je veux pas te mettre en boîte, là, mais par année, combien de chandails différents on est capable de sortir par formation? Et souvent, c'est l'équipement complet, les bâtons, les souliers, les casques, les gants. Écoute, on en produit du matériel.
Depuis 15 ans, ça a commencé avec un third jersey, si tu me permets l'expression, puis là, ça a développé dans tous les sports. La NBA a 4 chandails officiels avec Nike. Ce sont 4 chandails par équipe. Il y a une cédule qui est prévue à cet effet-là. Le baseball, tu les as nommés, les différentes versions, mais le baseball, c'est le sport où il faut faire encore plus du côté du marketing des joueurs. Le côté marketing du baseball, c'est bon. C'est en bonne santé, le baseball. Les joueurs sont moins connus, par exemple. Tu vas regarder le concours de circuit ce soir. C'est difficile de les reconnaître tous. Puis demain, lors du match d'étoiles, on en connaît 4-5 de chaque côté. Mais à moins que tu sois un fervent de baseball, contrairement aux années 70, 80, 90 et au début des années 2000, où tous les joueurs étaient connus, le baseball doit faire un meilleur travail de ce côté-là. Mais par rapport à ta question, il y a au moins une demi-douzaine de chandails différents qui sont portés par chaque équipe. Je pense toujours aux Blue Jays qui jouent aux couleurs du Canada le 1er juillet, qui jouent en rouge, qui jouent en bleu, qui jouent en blanc. Et même dans des programmes doubles, les joueurs changent de chandail et ainsi de suite. Ça, c'est ce que j'appelle bon si on est capable de bâtir une identité pour chacun. Sinon, on perd nos partisans parce qu'ils ne savent pas qui reconnaître. Alors, c'est toujours la fine ligne entre du marketing efficace ou de la confusion.
Et c'est sans compter toutes les journées de support aux vétérans où on a l'habit camouflage à travers le baseball majeur au grand complet. Mais on trouve des façons originales, justement, de susciter l'intérêt. Une personne qui suscite pas mal l'intérêt des gens à travers le Canada, c'est Don Cherry, qui a été reconfirmé à Hockey Night in Canada parce que on disait, il y avait des rumeurs qui disaient peut-être que Don Cherry ne serait pas de retour. Et bien là, il semblerait qu'il sera là pour la prochaine saison. Don Cherry, Coach's Corner. Écoute, c'est un classique, ça.
Oui, puis tu as raison. Puis ça fait toujours le sujet d'une discussion, d'un débat chaque année. De toute façon, quand tu as 85 ans, on ne sait jamais ce que l'avenir te réserve. Il y a une chose qui est claire, à mon avis, Don Cherry, il fait son travail, il est pertinent, il n'est pas toujours intéressant, il n'est pas toujours précis ou justifié dans ses propos, mais les gens le suivent, surtout du côté anglophone. avec Ron McLean, la combinaison est bonne. Le Coach's Corner attire les gens. Il s'adresse à des jeunes, parfois en leur posant des questions directement ou en soulignant des choses pour eux. Moi, j'ai pas de problème avec Don Cherry. Quand il dit des niaiseries, il faut le souligner puis le reprocher. Mais autrement, il fait son travail. Puis encore une fois, il faut accorder au gars le crédit qu'il mérite. Il a 85 ans, puis il est encore à la télévision live. Une partie prenante des meubles de Hockey Canada.
J'ai l'impression que souvent, on s'en fait peut-être un peu trop avec Don Cherry, avec ce qu'il dit, on a l'impression, et je me souviens à l'époque, à Toronto, à l'époque, c'était le Air Canada Center, un match samedi soir canadien-Toronto. Quand t'arrives à l'entraque, puis Coach's Corner commence, écoute, tout le monde quitte son poste et tout le monde va devant les téléviseurs pour écouter, boire les paroles de Don Cherry, mais quelque part, il faut comprendre que c'est du divertissement qu'il fait aussi.
C'est uniquement ça, du divertissement, mais il y a une certaine influence. Les gens veulent savoir, parce qu'on va en parler pendant quelques jours de ses commentaires. Il est très patriotique. Il est très fan des Bruins, bien sûr. Il est très reconnaissant envers le Canada, envers les soldats, l'armée qui défend le pays, envers le hockey mineur, le sport communautaire. C'est toujours des choses qu'il souligne très bien. Et de temps en temps, il va avec des petits points tactiques. Alors, il y a quand même un rôle à jouer. Moi, c'est ce que j'appelle un influenceur. Sauf que lui, il n'est pas sur les réseaux sociaux de façon évidente, mais il influence une grande population au Canada.
Et c'est les Hurricanes de la Caroline qui doivent être bien contents de s'être fait traiter de « bunch of jerks » parce que ça a été leur slogan. Ça les a amenés où ce qu'on a vu lors de la
à
saison.
À tous les niveaux, ça a motivé cette équipe-là. Alors, indirectement, oublie la vente de chandails puis de t-shirts puis de slogans. À la fin, ça l'a rassemblé un groupe qui avait besoin, si on veut, d'un coup de tonnerre là, pour changer cette équipe-là. Ils l'ont fait.
On va parler de business maintenant du côté de la Coupe du monde de soccer chez les dames. Les États-Unis qui l'ont emporté 2-0 face aux Pays-Bas. Et les bourses sont complètement différentes entre les hommes et entre les dames. Explique-moi pourquoi il y a une si grande différence entre les hommes et les dames.
Ben, la différence, elle est grande quand on regarde la valeur de la Coupe du monde masculine. C'est 400 millions de dollars remis et partagés entre toutes les équipes versus 30 millions pour les femmes. Et puis là, je parle de l'exemple de 2018 chez les hommes où la France a gagné. Mais il y a beaucoup plus d'équipes qui jouent du côté des hommes, pour le moment. Et l'autre chose, c'est qu'il y a bien plus de monde, forcément. 2 milliards de personnes sur la planète suivent à un moment donné ou un autre un élément de la Coupe du monde masculine, tandis que les femmes, c'était 1 milliard. Donc, les chiffres sont appropriés, basés sur le fait que l'intérêt est 2 fois plus grand. Mais individuellement, les filles de l'équipe américaine qui ont gagné la Coupe du monde dimanche vont se mériter 250 000 $ chacune. Tandis que les membres de l'équipe nationale de France qui ont gagné la Coupe du monde en 2018, 1,1 million de $. Alors, c'est 4 fois plus légèrement, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Mais il y a des sports, Jérémy, où l'écart, la disparité est énorme. La NBA, une moyenne de 7,7 millions de $ en salaire, puis les filles de la WNBA, 75 000. On ne parlera même pas du hockey, parce que le hockey féminin souffre. Il n'y a pas tout à fait une ligue maintenant pour les identifier. Mais les filles qui jouaient pour les Canadiennes, avec des foules de 1500, 2000 personnes, ça gagnait quelques milliers de dollars au cours d'une saison complète versus une moyenne de presque 5 millions de dollars en salaire moyen dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il y a de l'écart là. Mais Wimbledon, hommes et femmes, même bourse pour le gagnant, la gagnante. US Open au tennis, même bourse. US Open au golf, British Open au golf, les hommes gagnent peut-être 2,2, 2,3. Puis cette année, c'est la première fois qu'une bourse d'1 million de dollars au US Open féminin, au golf. Donc, on se rapproche. Dans certains cas, Jérémy, l'écart se réduit. Dans d'autres cas, ça ne changera jamais.
OK. Est-ce qu'on doit travailler sur cette disparité-là? Est-ce qu'on doit trouver des moyens? Est-ce que seulement les cotes d'écoute et la popularité du sport pratiqué vont faire la différence pour l'argent obtenu?
Bien, c'est ça la question existentielle. À la fin, c'est une business de dollars. C'est une business de visibilité, de volume. Et si je te donne Nadal Djokovic en finale à Wimbledon dimanche matin versus Ash Barty contre Serena Williams, probablement que toi et moi, là, on va choisir Nadal Djokovic avant, mais c'est comme ça pour une grande partie de la population. On doit constater que le sport masculin, dans son état pur, demeure plus attirant pour la moyenne des consommateurs. Ce n'est pas un reproche au sport féminin. Mais quand même, le fait que les hommes et les femmes ont la même bourse à Wimbledon, quand les hommes jouent des meilleurs de 5 versus des meilleurs de 3 pour les femmes, et quand les audiences pour le tennis masculin à Wimbledon est beaucoup plus, sont beaucoup plus élevées que pour les femmes, c'est quand même un pas d'accompli dans la bonne direction pour les femmes. Mmh. Elles méritent le même montant d'argent pour
gagner. Mais c'est pour un grand chelem, évidemment.
Oui, c'est vrai. Puis c'est pas toujours comme ça au fil d'une année. Mais je ne pense pas qu'on doit penser qu'on doit égaliser à tous les niveaux, Jérémy. L'important, c'est d'améliorer dans les deux cas. Et si on juge que les femmes en méritent plus, on devrait leur en donner plus. Et dans le cas du soccer féminin, probablement qu'avec les résultats positifs de l'événement en France, probablement que la prochaine occasion, il va y avoir plus d'argent disponible pour les champions de la Coupe du Monde.
Ben, c'est à souhaiter. Ray Lalonde, toujours un plaisir. Évidemment, on suit tes chroniques focus sur les différents réseaux sociaux. Je te dis un gros merci d'avoir pris du temps pour nous, Ray.
Merci, Jérémy.